I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Je suis Laetitia Béraud et vous vous en êtes rendu compte, les vacances scolaires sont terminées, c'est la rentrée. Qui dit rentrée dit peut-être aussi rentrée des fausses informations, les fameuses fake news. Est-ce qu'il y a des tendances nouvelles après cet été marqué par des sécheresses records, la crise énergétique ? Émilie Géhanneau, tu travailles au service Fake Off de 20 minutes, un service de la rédaction qui lutte contre les fausses nouvelles sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux. S'ils ont des questions, les lecteurs peuvent d'ailleurs vous contacter à l'adresse fakeoff@20minutes.fr. Alors Émilie, en cette rentrée, est-ce que tu as remarqué des choses particulières au rayon des fausses informations ?
Alors, au rayon des fausses informations, ce que j'ai remarqué, c'est que les fausses nouvelles sur le Covid restent présentes, mais en bruit de fond, quand même. Elles n'écrasent plus l'actualité comme cela a pu être le cas en 2020 ou 2021. Les infox sur la guerre en Ukraine tournent toujours aussi, elles sont toujours là, mais moins qu'au début de l'invasion lancée par la Russie. Après cet été sec et les canicules, les sécheresses en France comme ailleurs dans le monde, en Californie ou en Chine par exemple, on a vu beaucoup de fake news en lien avec le dérèglement climatique. Pas mal de messages, de photomontages avec des cartes météo qui minimisent les épisodes de sécheresse et de canicule en France. On a aussi vérifié des chiffres concernant la pollution générée par les voyages en jet privé, qui est un sujet qui reste toujours présent en cette rentrée. On voit aussi beaucoup d'informations partiellement fausses sur les voitures électriques dans les posts sur les réseaux sociaux ou dans une chaîne mail qu'on nous a transmise la semaine dernière et qui reprend les arguments qu'on a déjà débunkés.
Parmi les messages que vous recevez, donc notamment sur l'adresse fakeoff@20minutes.fr, des messages que vous avez analysés, il y a des posts qui affirment que les voitures électriques polluent tellement qu'en gros, il vaut mieux garder les véhicules essence et diesel.
Oui, alors pourquoi cet afflux de messages sur les voitures électriques sur les réseaux sociaux ? C'est lié à l'adoption par le Parlement européen en juin d'un texte qui acte la fin de la vente des voitures neuves thermiques à partir de 2035. Donc presque demain. Et cela a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Ça a charrié pas mal d'informations partiellement fausses, détournées ou transformées en généralité. Il y a par exemple des messages sur la fabrication des batteries, sur leurs besoins en terres rares. On a vérifié les chiffres qui étaient donnés dans ces messages et ils sont très très surestimés. Il y a aussi des messages à propos de l'empreinte carbone des véhicules électriques. Le cycle de vie d'un véhicule électrique le rendrait aussi polluant qu'un thermique. Or, on a aussi vérifié, et c'est faux. Bref, si je devais résumer le message global développé par les opposants, c'est que la voiture électrique pollue et donc il vaut mieux garder son véhicule diesel ou essence. Or, c'est faux là aussi. Pour un article sur les batteries électriques, j'ai interrogé Pierre Lefebvre, responsable transport du réseau Action Climat, qui est une association qui émet beaucoup de propositions pour favoriser la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc Pierre Lefebvre explique que le véhicule électrique pollue 3 à 5 fois moins qu'un thermique au cours de son utilisation. D'ailleurs, si cela vous intéresse, l'association Transport et Environnement a publié sur son site internet un outil pour comparer l'écart d'émissions de CO2 entre véhicules thermiques et électriques, parce que c'est ça qui est important en fait, c'est qu'avec un véhicule électrique, on n'émet plus de gaz à effet de serre lorsqu'on roule avec. Mais évidemment, il faut quand même préciser que le véhicule électrique a une empreinte carbone.
Oui, c'est pas la panacée.
Non, pas du tout. Et donc oui, il faut aujourd'hui deux fois plus d'énergie pour produire un véhicule électrique qu'un thermique. C'est ce que m'a expliqué Olivier Vidal, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble.
Alors pourquoi il y a une empreinte carbone telle pour les véhicules électriques ?
À la production ? Eh bien c'est surtout en raison de la batterie. Mais parce qu'il y a un mess, le surcoût de la fabrication est récupéré à partir de 80 000 km. Et donc ça, c'est ce que me dit le directeur de recherche au CNRS. Et autre chose aussi, donc aucun de mes interlocuteurs ne nie le fait que la fabrication d'un véhicule électrique pollue. Parce que c'est ça qui est toujours mis en balance, c'est genre l'électrique pollue. Et donc en fait, ça ne sert à rien d'avoir un véhicule électrique. Mais ça manque de contexte et de comparaison. Donc l'électrique, oui, peut moins polluer, mais sous condition. Il ne sera pas possible d'avoir autant de voitures et de SUV électriques que dans le parc automobile actuel. Ça, c'est ce que dit le réseau Action Climat, qui a listé 8 conditions essentielles. Et si on extrait des matières premières et des terres rares, où est-ce qu'on les prend? Selon quelles exigences environnementales, sociales et de droits humains? Et donc là, en fait, pour le réseau Action Climat, il faut questionner le fait d'avoir des mines en Europe. Donc ça veut dire ouvrir à nouveau des mines en Europe pour avoir une meilleure maîtrise de ces conditions environnementales, sociales et de droits humains et de ne pas exporter le problème ailleurs, comme c'est le cas actuellement.
Et encore faut-il que ces terres rares, donc ces minéraux, ces matériaux rares, existent en Europe.
Oui, aussi.
14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035.
Emmanuel Macron, le 24 novembre 2018.
Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim.
Il y a un autre thème aussi de la rentrée, c'est la crise énergétique. Notamment, il y a des postes qui critiquent très fortement la fermeture de la vieille centrale française de Fessenheim, fermeture qui a été réalisée en 2020. Et selon ces messages, je résume à grands traits, si le gouvernement n'avait pas fermé cette vieille centrale nucléaire, la France serait à l'abri d'éventuelles pénuries énergétiques cet hiver.
Oui, c'est à peu près ça. Alors, qui produit ces messages? On les a principalement identifiés à droite et à l'extrême droite. Ils disent que si la centrale avec ses 2 réacteurs était toujours en activité, il n'y aurait pas de crainte de pénurie. Or, c'est faux, disent 2 experts que j'ai interrogés. On a contacté François-Marie Bréon, physicien et climatologue, favorable au nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il nous a dit que laisser croire qu'on n'aurait pas de problème si on avait laissé Fessenheim ouverte, ce serait un gros mensonge. Et donc ce scientifique nous a aussi dit que si la vieille centrale de Fessenheim et ses 2 réacteurs étaient toujours ouvertes, cela ne suffirait pas à couvrir les besoins de notre pays cet hiver. Fessenheim, c'est donc 1,8 gigawatt de puissance installée avec ses 2 réacteurs. Et donc ce serait toujours 1,8 gigawatt de moins à trouver, donc nous dit François-Marie Bréon. Mais avec le parc nucléaire aujourd'hui, on est entre 10 ou 20 gigawatts de moins qu'habituellement. Donc ce ne serait pas assez. Et donc c'est aussi l'avis qu'a Yves Marignac, un expert nucléaire de l'Institut Negawatt, qui est donc en faveur, cet institut du développement des énergies renouvelables et contre le nucléaire dans le mix énergétique français. Alors oui, donc le maintien en service de Fessenheim réduirait un peu la pression, mais ne serait pas du tout de nature à éviter la crise, c'est ce qu'il me dit. Prolonger Fessenheim aurait nécessité des travaux importants pour s'aligner sur les exigences post-Fukushima, ça c'est un autre argument qu'il avance, et qu'il y aurait des coûts supplémentaires qu'EDF n'était peut-être pas prêt à assumer.
Derrière ces messages ciblant Fessenheim, il y a la crainte d'une pénurie, la crainte de coupure énergétique cet hiver en France. Et cette crainte, elle est basée sur quelque chose de réel.
Oui, oui, puisque en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a 32 réacteurs qui sont à l'arrêt sur 56. Et la raison, c'est que ce sont des problèmes de corrosion qui affectent 12 réacteurs et que le calendrier de maintenance du parc nucléaire a été retardé par la pandémie de Covid.
Merci à Émilie Géano pour cet entretien. Minute Papillon, c'est le podcast d'actu de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr à la rubrique podcast. Si vous avez une idée, une critique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse audio@20minutes.fr. On se retrouve très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes dont tout s'explique ou l'été dans vos oreilles.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.